Benoît Basirico et Cinésique avec vous sur Aligre FM pour l'actualité des musiques de films. Comme vous avez pu le remarquer et nous le manifester via Facebook, nous n'avons pas pu faire d'émission depuis avril pour raison de lundi férié, les 1er mai et 5 juin dernier. Merci donc à Vive le Cinéma de nous accueillir sur son autre créneau et nous permettre de clôturer la saison avec une émission dédiée à des films sélectionnés au dernier Festival de Cannes, également à l'affiche en mai et juin. Nous avons ainsi retenu 5 BO qui nous ont marqués. Nous allons vous faire entendre 5 partitions, certaines en exclusivité, avec la diffusion d'interviews que nous avons réalisées à Cannes avec le compositeur ou le réalisateur des films cités. Il s'agit donc de Arnaud Desplechin pour Les Fantômes d'Ismaël, de Philippe Sard pour Rodin, de Philippe Rombi pour L'Amant Double, de Barbet Schroeder pour Le Vénérable W, ou encore de Florencia Di Concilio pour La Découverte de la Semaine de la Critique, Ava. Et pour finir, Manuel Bleton, dans sa chronique, nous dévoilera une rareté en vinyle, une rareté signée François Deroubet. Et merci d'avance, Manuel. Pour commencer par ordre chronologique de la sortie des films, sorti le 17 mai dernier, le film d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël, a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Le cinéaste retrouve Grégoire Hetzel après Roi et Reine, Un conte de Noël et 3 souvenirs de ma jeunesse, avec une partition à la fois romanesque avec des cordes amples et intime avec des instruments solistes comme la flûte, pour illustrer les tourments de Mathieu Amalric face au retour d'une femme qu'il croyait morte. Écoutons la musique des Fantômes d'Ismaël avant d'écouter Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin.
J'écoute de la musique tout le temps quand j'écris, j'écoute de la musique tout le temps quand je filme, sur le plateau, quand, enfin pas quand je filme, parce qu'il faut écouter les acteurs, mais quand je prépare, je fais les mises en place, là, il y a toujours des musiques populaires, savantes, un peu n'importe quoi, mais la musique c'est surtout pour moi, c'est essentiel dans ma façon de réinventer les films au montage. Et c'est une façon de recomprendre le film et de prendre le spectateur par la main. Et si j'avais pas un compositeur à côté de moi, comme j'ai tendance à raconter des histoires, voyez, où tout est imbriqué, etc., j'ai besoin à un moment pour que le film soit accessible au public, pour que le film puisse délivrer les sentiments qu'il a délivrés, j'ai besoin de la musique. J'aime le cinéma populaire, et je trouve qu'il y a une adresse comme ça vers le spectateur, une façon de le prendre par la main, de l'accompagner dans la scène, qui est très importante pour moi. J'ai toujours trouvé qu'il était bon que la musique soit accompagnée, réinventée, et qu'on prenne le spectateur par la main, et pour moi, ce deuxième narrateur, donc pas le metteur en scène, c'est le compositeur de musique de film. Cet homme est entre 3 femmes et il aime chacune des 3 femmes et il aime différemment. Mathieu, il devait jouer l'amour physique y compris pour une femme, mais chacune il l'aime différemment, il l'aime pour ce qu'elle est. Donc ouais. Du coup, vous voyez, ce qui a été très grossier, c'est de les aimer en disant c'est super, on va coucher ensemble et de les coucher pareil. Non, on devait inventer 3 manières de filmer différentes, 3 manières différentes de jouer, et pour Grégoire, après, trouver 3 thèmes amoureux qui soient différents les uns des autres. Parce que l'amour la passion physique qu'il a pour Carlotta, puisqu'il couche avec elle, n'a rien à voir avec la façon dont il couche avec Sylvia, qui n'a rien à voir avec la façon quand on retrouve Fonia et Ismaël au lit, où il y a un quatuor super beau. Ça n'a rien à voir. Donc il fallait que Grégoire, il apporte le sentiment frontalement, qu'il assume le sentiment, mais qui donne une voix à chacune de ces femmes. C'est un film très musical, donc là l'enjeu était énorme, et il y avait ces histoires enchâssées, où si j'avais pas les musiques de Grégoire, vous ôtez les musiques de Grégoire, vous ne comprenez plus l'intrigue, c'est l'intrigue, vous voyez, qui est portée par la musique, et qui vous donne le récit. Vous voyez, les voix féminines, ce retour de Carlotta, c'est une flûte, c'est même pas une flûte, ce sont plusieurs flûtes. Et même ce motif de la flûte, il vient souligner Fonia, l'actrice qui joue le personnage d'Ariel. Il vient souligner toutes les interventions féminines. Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Mais il se trouve que ce film s'articule autour de trois figures féminines. Et ces trois figures féminines, il y a la flûte et c'est leur privilège. Un privilège qu'on refuse au personnage masculin.
Voilà, nous venons d'entendre cette flûte issue des fantômes d'Ismaël et nous avons entendu son réalisateur Arnaud Desplechin, musique signée Grégoire Hetzel. On continue les films de Cannes sortis en salle, sortis le 24 mai dernier, Rodin, le film de Jacques Doyon, fidèle à son compositeur Philippe Sard pour la 11e fois depuis leur rencontre sur un sac de billes, avec une petite formation qui cherche à retranscrire l'intériorité du sculpteur incarné par Vincent Lindon. Rodin était en compétition au Festival de Cannes. Nous découvrons donc la musique de Philippe Sard et nous écouterons Philippe Sard lui-même nous parler de cette partition.
Thank you. Philippe Sard.
Doyon, il avait très peur de la musique. D'avoir réussi à faire de la musique pour Bresson, donc c'était en dessous du lac, en l'occurrence, toute angoisse vis-à-vis de moi a disparu. De collaborateurs, on est devenus très très amis. J'ai fait tous les films de Jacques où il y a de la musique originale. La musique étant pour lui un problème, il sent qu'il en faut. Quand il sent qu'il en faut, ben, on en parle pendant... on peut en parler des fois pendant des semaines. Il y a un moment où il va te dire deux, trois choses, soit avec ses mains, soit avec son regard, soit avec des trucs qu'il va me faire entendre, qui ne marchent pas sur le film, sinon il l'aurait mis. J'ai essayé, avec les quelques notes de musique qu'il y a dans le film, de donner un intérieur autre que ce que Jacques a montré. C'est-à-dire quand il regarde la statue de Balzac, quand il essaie de la faire, ce que je voulais, c'était que la musique regarde ses yeux, l'intérieur du type qui cherche, donc ému, parce qu'un artiste qui cherche et qui trouve passe par la case émotion. Il ne peut pas ne pas passer par la case émotion. C'est la profondeur du mec que j'ai voulu donner avec la musique. Et j'ai utilisé très peu de musiciens. J'ai utilisé deux violoncelles, un violon et un piano, donc un quatuor. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas lui donner de... le figer dans une époque, tu vois ce que je veux dire. Et ni l'image, ni la musique fige dans une époque. Elle brise, elle est brisée entre le 19e, le début du 20e, et des harmonies assez modernes par moments.
Magnifique thème au piano, signé Philippe Sard, qui prouve encore une fois pour Rodin qu'il est un grand mélodiste. Nous avons donc entendu Philippe Sard nous parler de cette partition. Nous continuons avec ces films de Cannes présents en salle, notamment sorti le 24 mai dernier également, L'Amant Double, le nouveau film de François Ozon qui surprend avec ce thriller fantastique, et il retrouve pour la 12e fois son compositeur Philippe Rombi avec une partition qui mêle l'acoustique et l'électronique, accompagne délicatement la plongée dans le fantastique avec sur certaines scènes une radicalité expérimentale et dissonante qui surprend pour ce compositeur plutôt tendre habituellement. L'Amant Double, et nous écouterons Philippe Rombi nous parler de cette partition. Philippe Rombi.
J'ai reçu le scénario, je l'ai lu et j'ai ressenti des choses voilà, que je n'avais pas ressenties dans notre film de François. Il avait envie de choses différentes, un petit peu plus électroniques, un petit peu plus des nappes, des choses un peu moins définies. Pourquoi pas un thème, mais c'était moins une évidence que par dans les précédents films qu'on a fait ensemble. C'était moins une demande spécifique. Donc il y avait un climat à trouver, il y avait des sons, il y avait un univers sonore qui pouvait être un peu plus mental en fait que d'habitude. J'ai ressenti très vite que pouvait cohabiter avec l'électronique des textures de cordes plus atonales, plus du domaine de l'effet, de la dynamique que pourraient donner des vrais instruments à l'intérieur de ces nappes électroniques. Je sentais que les deux pouvaient donner quelque chose d'intéressant et peut-être plus original que simplement tapisser le film de nappes comme on fait beaucoup aujourd'hui. Alors même si c'est le film s'y prête, le film joue avec les frontières du film de genre et le piège était, je pense, de basculer dans le film de genre totalement. Donc d'être un peu cliché, à la fois dans la mise en scène, à la fois dans la musique. Donc on a beaucoup travaillé pour essayer d'être toujours à la frontière de ça. Donc effectivement, il y a des moments de panique, d'horreur, entre guillemets, enfin de frayeur, où la musique aurait pu basculer totalement dans la musique de genre, de film d'horreur. Elle caresse ce genre sans l'épouser complètement. Cette confrontation, je crois, entre l'électronique et l'organique acoustique qui vient se mêler. Ça a été un sujet de conversation sur le dosage. Le vrai but, c'est de trouver la recette qui marche avec le film. Et ça, c'est le défi que j'aime à chaque fois, que ce soit des comédies, que ce soit des drames ou des films, des thrillers, c'est trouver la bonne couleur. Est-ce que je vais être capable d'être... qu'on dise quand on sort du film, finalement, on n'imagine pas le film avec autre chose. Ça, ce serait presque la meilleure récompense.
À l'instant, L'âme en double. François Ozon est un réalisateur qui permet à son compositeur de sortir de sa zone de confort. Nous n'avons jamais entendu Philippe Rombi comme ça. Bravo donc à Philippe Rombi pour ce travail qui est pour moi l'une des meilleures partitions de la compétition à Cannes, sûrement avec Rodin de Philippe Sard dont on a écouté la musique précédemment. On continue avec le Vénérable W qui est sorti le 7 juin dernier. Le Vénérable W est un documentaire portrait glaçant d'un bouddhiste birman islamophobe. Le cinéaste Berbet Schroeder continue sa trilogie du mal et il retrouve Georges Ariagada, son compositeur. Il le retrouve après L'Avocat de la Terreur en 2007. La musique donne l'alerte en rappelant la gravité qui se cache derrière les messages de propagande. Nous écoutons Berbet Schroeder nous parler de ce documentaire et de cette collaboration.
Très souvent sur un film, on ne peut pas faire le travail parallèle de recherche de la musique et d'écriture du scénario, tout ça. On est toujours trop pressé d'aller en avant et très souvent, les décisions musicales se font au début du montage, et même quelquefois à la fin du montage. Au fur et à mesure que le montage avance, oui, j'arrive à deviner de plus en plus, mais tout d'un coup, un beau jour, Georges arrive et il dit « Mais tu sais, si on commençait là, et essayons, et puis... » Et quelquefois, il a raison, et voilà, et c'est tout de suite accepté. C'est une collaboration, quoi. La bonne direction, c'est pas forcément ma direction, c'est une direction qu'on découvre petit à petit. Elle raconte quelque chose que la voix off ne peut pas raconter, que les images ne peuvent pas raconter, quelque chose de mystérieux, d'émotif, quelque chose qui a à voir avec des personnages, quelquefois, une fonction narrative. C'est très souvent à voir avec les personnages, c'est très souvent des commentaires sur les personnages. Il ne fallait pas qu'on la remarque trop, c'est toujours... Il fallait qu'elle soit insidieuse, sauf pour le générique de fin, où là on dit, vous ouais. avez vu un grand film. Tout film est un film de fiction, donc si tout film est un film de fiction, même les documentaires doivent avoir... des séquences musicales qui sont faites comme des... Voilà. Il faut se servir de tous les moyens du cinéma qu'on a à sa disposition dans le cinéma. Et il ne faut pas hésiter à utiliser la musique. Un documentaire raconte une histoire et il y a des moments de suspense, il y a des moments où... pour moi, il n'y a pas de différence.
À l'instant, le vénérable W, nous avons entendu le réalisateur Barbette Schroeder nous parler de cette musique et de sa collaboration avec Georges Ariagada. Georges Ariagada, que je remercie pour cette partition, puisque cette musique est exclusive. Aucune parution n'est prévue pour cette partition, donc profitez-en. Le vénérable W, musique donc très inattendu pour un documentaire. Et enfin, pour terminer avec le Festival de Cannes dans les salles, avec Ava, sa compositrice, c'est Florencia Di Concilio, d'origine uruguayenne, et qui signe la musique du premier long métrage de Léa Misius, qui a fait sensation à la Semaine de la Critique, avec une partition où domine un violoncelle rugueux, instaurant une aspérité en contradiction avec la carte postale du bord de mer, pour cette romance estivale d'une adolescente qui perd la vue. Nous écouterons Florencia Di Concilio après la découverte de cette partition.
Thank you. des instruments de cordes, mais jouer de manière pas traditionnelle et justement en une recherche dans le son. J'ai enregistré au fur et à mesure cette bande de son avec la présence, en présence de la réalisatrice. J'ai décidé pourquoi pas le violoncelle. La première fois de ma vie que je joue un violoncelle. Mais du coup, se détachant de la partie technique, puisque je n'en ai pas, et aller juste vers la découverte de sonorité, de texture, en suivant presque aveuglement ou instinctivement, si tu veux, les textures de l'image. C'est pour ça que ça donne quelque chose de très... tu sens la texture de la musique. Un truc que j'aime beaucoup faire, pour la musique, pour l'image, c'est prendre un bruit, n'importe lequel, et le rendre musical. Il y a quelque chose de presque préhistorique, non ? C'est pas une cacophonie, c'est très facile de prendre un instrument et faire beaucoup de bruit, blablabla, et que ça sonne tout foufou, mais c'est pas ça du tout. La musique a une cohérence, a une ligne narrative tout le long du film. Ça commence avec quelque chose de décomposé, très obscur, alors qu'elle voit, et ça finit dans un truc très lumineux, alors qu'elle ne voit plus, mais elle a retrouvé la vraie liberté.
Magnifique partition de Florencia Di Concilio que je remercie pour cette BO puisque la BO n'est pas disponible et aucune parution n'est prévue à ce jour pour Ava, et je vous invite tous donc à aller voir ce film dans les salles avec cette magnifique partition. Voilà pour ce petit bilan de Cannes avec exclusivement les films sortis dans les salles. C'était la dernière participation de Cinésique à Aligre pour cette année. Nous nous retrouverons donc à la rentrée prochaine. On termine avec Manuel pour ta dernière chronique de la saison également. Bonjour. Manuel, tu t'intéresses cette fois-ci à un compositeur français culte des années 70.
François de Roubaix, qui en une petite dizaine d'années a créé un style musical assez nouveau pour le cinéma. On peut citer Les Grandes Gueules, Le Samouraï, Dernier Domicile Connu ou La Scoumoun.
En quoi le titre que tu vas nous passer est une rareté ?
Eh bien, il n'a jamais été entendu en dehors du film. Et là, on l'écoute dans une version qui sort directement du studio.
Très bien, très bien. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une parution est tout de même prévue.
Chez Music Box, une parution qui regroupera deux films, La mort d'un guide et Où est passé Tom, cet automne.
D'accord. On attendra cette parution et on l'écoute donc là en exclusivité. Alors on écoute quel titre ?
On écoute un thème qu'on connaît déjà, mais dans une version qu'on n'a jamais entendue, Où est passé Tom, le J'ai pas encore le titre, enfin il n'a pas été baptisé encore.
D'accord, donc c'est vraiment la musique dans le film, voilà, que l'on écoute pour la première fois en dehors.
Et on peut, oui, et on remercie Benjamin de Roubaix pour cette exclusivité.
Benjamin de Roubaix, donc le fils du compositeur qu'on apprécie tous, puisqu'il est déjà venu dans cette émission la saison dernière. Où est passé Tom ? Donc merci Manuel et merci à tous de nous avoir suivis toute cette saison encore une fois. Merci.